Merci pour cette invitation. Quand Sabine et Fabien m'ont demandé d'exposer mes travaux, entre guillemets, sur les agents des voies d'eau, j'étais très très content parce que je me suis dit, tiens, ça va être une occasion de travailler sur ce matériau. Deux enquêtes successives que j'ai pu réaliser dans le cadre d'une ANR d'abord et puis ensuite d'un contrat avec le comité d'histoire du Conseil général de l'écologie et du développement durable qui portait essentiellement sur les questions de témoignages oraux et d'histoire, enfin de constitution d'archives orales de ce genre de catégorie d'agents. Ça a donné donc lieu à un certain nombre d'entretiens, beaucoup d'observations, des heures, des journées entières avec les agents, mais qui ne sont pas uniquement des éclusiers, parce que ça portait aussi sur ce qu'on appelle les barragistes, les agents de la gestion hydraulique à proprement parler, des agents de maintenance, comme vous voyez là, ou de l'entretien linéaire. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Peut-être de temps en temps, je vais mobiliser quelques éléments de professions très, très voisines ou en tout cas de gens qui appartiennent à la même administration parce que pour beaucoup, il s'agit donc de gens qui travaillent pour VNF, Voies navigables de France. Alors, le premier embarras suite à la demande de Sabine et de Fabien, c'était lesquels choisir. Et finalement, j'ai choisi les éclusiers parce que c'est les moins étranges. Et vous allez voir que c'est quand même déjà assez étrange comme ça, ce que je vais vous présenter. La deuxième question, c'est donc c'est des gens qui sont plutôt emblématiques de la voie d'eau que tout le monde connaît, alors que d'une façon générale, on verra que ces choses-là sont quand même, comme on l'a mentionné plusieurs fois ce matin, beaucoup de ces métiers-là sont dans une grande invisibilité. Dans une grande invisibilité. Le deuxième embarras qui m'a saisi tout de suite après, c'est est-ce que c'est des ouvriers? Alors, quand on regarde la PCS, par exemple, en fait, c'est des agents de la fonction publique de catégorie C, qui rentre avec un petit concours. On verra ça tout à l'heure par la suite. Il y a encore quelques agents éclusiers qui sont ce qu'on appelait les ANI, c'est-à-dire des gens qui ont été recrutés par les directions territoriales directement sur contrat et qu'on appelle donc des agents de navigation intérieure qui n'ont même pas un statut de fonctionnaire. Et ils sont insérés en quelque sorte ils côtoient des ouvriers des parcs et des ateliers qui sont eux des ouvriers de l'État, donc qui bénéficient d'un statut infiniment plus avantageux qu'eux, qui sont des simples agents. Et généralement, il n'y a pas. Enfin, ils ne sont pas considérés comme des éclusiers par les directions des ressources humaines, généralement, mais par des agents d'exploitation. Et il se trouve que, d'ailleurs, ils peuvent tout à fait passer de l'un à l'autre, le cas échéant, s'ils ont la possibilité. Quand on regarde les PCS, c'est décidément, un métier ouvrier, c'est-à-dire qu'ils font partie de la profession 655A, autres agents et ouvriers qualifiés sédentaires des services d'exploitation des transports. En tout état de cause, ils sont sur des emplois subalternes et avec un travail d'exécution. Mais on va voir que ce titre entre les manivelles et les souris, il y a des évolutions dans ce métier. qui ne concerne probablement pas tant les agents individuellement, sauf pour certains, mais l'ensemble de cette catégorie d'éclusiers est dans une évolution qui fait que pour une partie, mais ils sont largement dans un entre-deux et il y a, on le verra tout à l'heure, des agents qui sont maintenant des techniciens de navigation ou des techniciens supérieurs de navigation. Ce que ça veut dire, on verra tout à l'heure. Je vais vous raconter des choses qui sont infiniment moins conceptualisées de ce qu'on a vu ce matin. C'est pour une raison tout à fait simple, c'est que depuis que j'ai fait cette enquête-là, ou ces deux vagues d'enquête, j'ai été pris par d'autres choses et c'est donc des choses qui sont pour l'instant au congélateur et j'ai pensé que ça serait bien de les sortir pour en parler un petit peu ici. Alors la première chose à dire, c'est que les écluses sont des ouvrages de navigation avec une histoire extrêmement ancienne qui résulte du rapprochement de deux portes marinières qui permet de réaliser une écluse dite à sas et qui ont été inventées dans les années 900, quelque part, d'une façon concomitante, presque en Chine et aux Pays-Bas. C'est un système technique qu'on a souvent du mal à s'imaginer, mais dont il faut tenir compte parce que, comme vous le voyez là-dessus, il consiste en un ensemble de portes, ça c'est assez clair, mais qui peuvent être des portes busquées, des portes à guillotine, des portes à secteur. Il y a un système de ventelles ou de vannes qui permettent de remplir ou de vider cette écluse. Il y a des aqueducs ou ce qu'on appelle dans le langage de métier des larrons qui permettent de remplir l'écluse sans que ça fasse trop de bouillon, c'est-à-dire que c'est un système d'adduction d'eau par en dessous du radier, qui délimite l'écluse avec des maçonneries, ce qu'on appelle des bajoyers et des radiers. Il y a en amont et en aval des biefs, et il y a des échelles qui permettent de regarder le niveau d'eau, chose qui est très importante pour l'éclusier, parce qu'il doit surveiller aussi le niveau du bief amont et du bief aval, qu'on appelle des échelles limnimétriques. Vous en avez déjà tous vu, je m'imagine, ces espèces de mètres qu'on voit au bord des voies d'eau et qui sont avec des gros traits noirs et blancs, généralement. Et il y a des choses après beaucoup plus compliquées, des bassins de tranquillisation, des bassins d'épargne qui permettent de ne pas vider entièrement l'écluse dans le bief aval, mais de garder une partie de l'eau pour un éclusage dans l'autre sens qui viendra après. Il y a une énorme variété de configurations, tant techniques du point de vue des écluses et des types de voies d'eau. Alors, très rapidement, en quoi ça consiste le travail des éclusiers? Ils manœuvrent les portes, ils régulent les flux des bateaux, ils régulent peut-être pas que des bateaux, on verra ça. Ils perçoivent dans certains cas des péages, ils renseignent les usagers sur l'état du fleuve et les écluses en amont et en aval, et ils distribuent éventuellement des télécommandes. Alors, on va passer rapidement en revue les différentes configurations à la fois d'écluses du point de vue du technique, de la technique employée et du point de vue des voies d'eau sur lesquelles ça se trouve. Il y a donc les premiers, ceux qui sont des éclusiers qui travaillent sur des écluses manuelles, c'est là que vous allez trouver donc les manivelles, qui manœuvrent les portes avec des leviers, qui manœuvrent les ventelles avec les manivelles par l'intermédiaire d'un cric et qui se trouvent sur des canaux qui sont à petit gabarit. Aujourd'hui, il s'agit quasiment plus que de voies touristiques ou qui ont une importance touristique. et qui, du fait de la moindre importance du trafic sur ces voies d'eau, font un travail en accompagnement, c'est-à-dire qu'ils ne sont plus fixes. Ils se baladent donc le long de la voie avec les bateaux qu'ils ont à écluser ou avec des packs de bateaux, c'est-à-dire plusieurs bateaux. C'est surtout en été que ça arrive. Parce que ils sont pas suffisamment, enfin les bateaux ne sont pas suffisamment nombreux pour justifier un éclusier à poste fixe. Il y a le même type d'écluse que vous voyez là, c'est une écluse, enfin l'éclusière, elle fonctionne là, elle travaille là sur un ensemble d'écluses extrêmement connues qui s'appellent les écluses de Fonsérane. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça sur le canal du Midi, au débouché du canal du Midi sur l'Orbe et donc sur Béziers. Et là, c'est des écluses dont les différents organes mobiles sont mécanisés, ici avec des moteurs électriques. Ça se passe aussi sur des voies d'eau à petit gabarit et sur les canaux touristiques. Et dans le cas du canal du Midi, il y a en plus, en tout cas à cet endroit-là, il y a en tout cas une composante tout à fait particulière du travail des éclusiers qui est que ils sont soumis à une très très forte pression touristique, non seulement sur l'eau, parce que c'est beaucoup de gens qui sont absolument pas aguerris au fonctionnement des bateaux, mais il y a aussi beaucoup de touristes autour qui veulent regarder les écluses. Et donc les éclusiers, ici, ils sont sans arrêt en train de gérer à la fois le flux des bateaux et le flux des touristes qui essayent de s'approcher des bassins et qu'ils doivent empêcher éventuellement par des actions un peu de police à tomber dans les sas. Une des fiertés de ce type d'éclusier, c'est la photo en bas par exemple, de mettre 5 bateaux dans une écluse et de faire la circulation, parce que nécessairement les bateaux ne se sont pas présentés de cette façon-là, tels qu'ils sont rangés dans le sas. Ensuite, il y a des écluses, parce que vous vous imaginez bien qu'à partir du moment où on peut les mécaniser, où on peut rendre les différents organes mobiles avec une assistance soit électrique, soit hydraulique, on peut les automatiser. Effectivement, ça se fait. Il y a des canaux en France qui sont avec des écluses qui sont largement automatisées. Alors c'est un peu difficilement reconnaissable, mais il y a dans le centre de l'écluse tout un dispositif avec des tirettes, et vous tirez donc sur une des deux barres que vous voyez là. Je ne sais pas si c'est bien clair, mais bon, peu importe. Et ça déclenche donc un cycle d'éclusage avec éventuellement une barre, la rouge, qui permet de réaliser un arrêt d'urgence. C'est tout à fait ce qui est d'ailleurs le problème des éclusiers qui ont en charge ce genre d'écluse, parce que ce genre d'écluse, bien qu'étant automatique, ne fonctionne pas sans éclusier. Il y a sur ces tronçons avec plein d'écluses toujours des éclusiers itinérants qui remettent en route des écluses qui ont été mises volontairement ou involontairement en carafe, comme ils disent, ou qui sont rendus inopérants par un pneu de voiture, par un gros bout de bois qui est coincé derrière la porte, enfin voilà. Il y a d'autres formes d'automatisation, par exemple dans des écluses dites clés, on distribue aux usagers un petit dispositif, comme vous voyez là en bas, qui est un boîtier de télécommande, et qui permet de déclencher sur un ensemble de tronçons les cycles d'éclusage. Maintenant, on va changer de monde. Ici, il y a des éclusiers qui sont sur des canaux, sur des voies d'eau qui sont totalement différents, qui sont encore avec un fort trafic de commerce. Ici, c'est une écluse... Je crois que c'est l'écluse de Königsmacker à sur la Moselle, hein, où il y a des énormes bateaux qui font 120 mètres de long, enfin 115 mètres de long et plus de 8 mètres de large. Et avec un fort trafic, les éclusiers sont installés dans les miradors. Ils travaillent à poste fixe et ils ont soit un travail uniquement dans la journée, mais à deux postes, soit un travail en 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et bien évidemment, ces choses-là, tenir ces postes-là, ça nécessite, comme on verra ici, bon voilà, c'est des écluses qui sont à cycle automatisé. C'est-à-dire que les éclusiers, ils ne tournent plus des manivelles, mais ils déclenchent avec un clic de souris un cycle d'éclusage dont ils ont vérifié auparavant avec des caméras vidéo de surveillance si tout était en ordre, si le bateau était correctement amarré, etc. Ils ont à leur disposition tout un dispositif de surveillance de la voie d'eau en amont et en aval. Mais surtout, ce qui est important ici, c'est de remarquer que sur ces écluses qui sont en 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, ben, ça nécessite des équipes de 7 à 8 éclusiers par poste fixe. Alors, ça fait des petites équipes de travail qui, en fait, se côtoient assez peu parce qu'au changement de poste, ben, ça se recouvre juste d'un quart d'heure à peu près pour passer les consignes. Et du coup, il y a quand même, parce qu'il n'y a pas vraiment de collectif de travail dans le sens où ils travaillent ensemble, hein, la capacité à travailler seul. Et la gestion du sommeil, parce que quand on travaille la nuit, il se passe pas grand-chose. Il faut pas s'imaginer que c'est un trafic incessant. Il y a donc un bateau tous les 3-4 heures qui passe. Et du coup, la question de la gestion du sommeil est une question très très importante qui, au début, rebute un certain nombre d'éclusiers, qui pour eux est toujours décrit comme quelque chose d'extrêmement difficile et éprouvant, mais que à la fin, une fois qu'on s'y est fait, ça fait partie d'une espèce de fierté du métier et de la capacité de tenir ce type de rythme, tout en rusant avec le sommeil, parce que, bien évidemment, ils ne dorment pas, ils n'ont pas le droit de dormir, mais ils dorment quand même. Ils ont tout un tas de dispositifs, d'astuces pour se tenir suffisamment éveillé pour entendre les bateaux arriver, surtout parce que les bateaux, ils s'annoncent à la VHF. Voilà. Bien. Maintenant, il y a des fortes demandes de passer à tout à fait autre chose et donc de regrouper les différents postes d'éclusage, d'éclusier et de passer à quelque chose qui a été réalisé sur le Rhône. On se trouve pas là dans la configuration VNF parce que le Rhône, du point de vue navigation, n'est pas régi par la Voie navigable de France, mais par la Compagnie nationale du Rhône, qui, elle, vit essentiellement de la production d'électricité. Donc, ils ont beaucoup de moyens. Ils ont donc mis à la disposition de la navigation un système qui est le regroupement de l'ensemble de la conduite des 14 écluses sur le Rhône navigable jusqu'à Lyon, de Marseille à Lyon, par un regroupement de ces écluses-là sur un endroit qui s'appelle Châteauneuf-du-Rhône. Et donc, ces éclusiers, ben, ils fonctionnent donc avec des cadrans à distance, avec un chef opérateur et qui distribue les différents éclusages à faire. Et on n'a donc plus à faire à des éclusiers dans le sens classique, hein, ni à des agents d'exploitation, mais à des techniciens de navigation, comme je l'ai dit tout à l'heure. Alors, ils travaillent avec des interfaces de communication, etc. Et ça sert bien évidemment à réduire considérablement le personnel, mais il n'y a pas que cet aspect-là, parce que du coup, ça permet aussi de réduire l'ensemble des problèmes de sécurisation des miradors, de résoudre pas mal de problèmes des postes seuls, etc. Il faut dire que, historiquement, le métier d'éclusier était plutôt un métier féminin. C'était plutôt des éclusières dans le sens classique. Alors pourquoi c'était un métier féminin ? Parce que en fait c'était un métier qui résultait d'un partage de travail entre l'embauche d'un agent d'exploitation qui lui s'occupait d'une certaine partie du bief en entretien dit linéaire, c'est-à-dire qu'il fauchait, il réparait les maçonneries, les perrait, il faisait l'ensemble de l'entretien et technique et linéaire dans le sens de fauchage qu'il fallait réaliser sur ses ouvrages, et c'était sa femme qui tenait l'écluse. Hein, qui était donc à un endroit fixe, alors que lui, il était mobile sur un certain nombre de kilomètres. À partir du moment où les éclusiers et les éclusières sont devenus un endroit qui était à la fois facilement accessible avec la motorisation, et devenaient donc des endroits plutôt isolés parce qu'il y a assez peu d'écluses dans les villes. Ils sont plutôt en rase campagne généralement, on peut dire qu'ils sont au milieu de nulle part. Ben, ces endroits-là devenaient extrêmement isolés. Et du coup, ça a basculé vers un métier masculin. Alors, exactement expliquer ces raisons-là, c'est pour moi assez difficile. Ça nécessiterait probablement de faire des investigations très très approfondies que je n'ai pas pu faire pour l'instant. D'ailleurs, je ne sais pas si ça a beaucoup de sens de le faire, mais éventuellement, j'attends vos suggestions sur la question. Ça n'empêche que c'est devenu donc un métier masculin et bien évidemment avec une justification totalement naturalisée c'est un métier qui, avec la taille des écluses, devient de plus en plus dur, devient de plus en plus technique, nécessite de travailler 24 heures sur 24. Et sur des endroits extrêmement exposés et de fait, beaucoup de directions territoriales avaient beaucoup de mal à éventuellement recruter des femmes si jamais ils avaient réellement voulu, parce que ces postes-là, effectivement, je ne sais pas si vous avez vu tout à l'heure l'écluse de Königsmacher, mais c'est vraiment au milieu de nulle part, et si vous êtes la nuit à cet endroit-là, c'est plutôt un peu inconfortable et bizarre. En tout cas, vous vous sentez loin de tout. Avec l'introduction de la téléconduite, les choses changent. Hein, et du coup, on est dans un endroit sécurisé. Oui, oui, tout à fait. Et ça permet l'embauche de femmes qui, au début, ont dû batailler pas mal pour pouvoir se faire accepter. Mais finalement, c'est considéré par l'encadrement de premier niveau comme une espèce d'aubaine parce que, comme ils disent, ça change le milieu dans le PC de contrôle. On peut éventuellement en dire un peu plus. Alors, bien évidemment, ces éclusiers, ou d'une façon générale, les agents de la voie d'eau, sont beaucoup pris dans des questions qui concernent l'écologie, la question environnementale. Les voies d'eau, ça ne sert pas uniquement à la navigation, ça sert aussi à l'alimentation en eau potable, à l'irrigation de l'agriculture, industrie, électricité, refroidissement. Et bien évidemment, au cadre de vie, hein, c'est des endroits qui sont très très prisés pour des activités de loisirs. Du coup, par exemple, en ce qui concerne les éclusiers, ils voient d'une façon avec beaucoup d'intérêt aujourd'hui ces questions écologiques autour des questions environnementales, parce que ça permet de se dégager. Tout à l'heure, on a parlé des questions générationnelles, ça intervient beaucoup ici. Hein, du travail qui était proche des cantonniers de la voie d'eau, des gens qui travaillent sur le canal et qui étaient extrêmement dévalorisés il y a quelques années encore, il y a 20-30 ans, c'était vraiment plutôt despectif de travailler sur le canal, alors qu'aujourd'hui, il y en a beaucoup qui se réclament de travailler sur une infrastructure avec de la vie à l'intérieur. Comment on y accède? On y accède par des concours de la fonction publique. Ils sont très souvent, c'est pas leur premier emploi, et pendant un moment, dans les années juste après la guerre, surtout avant la guerre, mais après la guerre, c'était encore échappé à l'usine, avec un travail plutôt stable, moins dur. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus échapper au chômage, avoir à Thionville, par exemple, ou dans des endroits comme ça, ou vers Dijon, un travail sur le canal, c'est plutôt un travail bien. C'est plutôt mieux que d'être au chômage. C'est une population qui est largement socialisée à la vie et au travail en plein air, à la campagne, et c'est des métiers qui s'apprennent par compagnonnage. Hein. D'ailleurs, cette chose-là renvoie à deux éléments de réflexion. C'est que premièrement, on voit ici qu'il y a quand même, non pas peut-être pas un déterminisme de la technique, mais quand même une influence très très fortement des techniques et des technologies mises en œuvre pour façonner le travail. Et une autre chose, c'est que il y a à s'interroger, il me semble en tout cas, sur qu'est-ce que c'est les conditions sociales de possibilité d'exercer ce type de métier. Oui, non mais j'ai fini. Qu'est-ce que c'est les conditions sociales d'exercer ce genre de métier? Hein, c'est des métiers qui sont plutôt, on pourrait dire, ruraux, qui n'ont que assez peu de choses à voir avec ce qu'on a vu ce matin, parce qu'ils ne s'exercent pas dans des ateliers, dans des lieux clos. On pourrait dire que le poste d'éclusage, c'est un lieu fermé, certes, hein, ils n'ont pas directement soumis aux intempéries, mais tout de même, pendant les périodes d'été, éventuellement pour des questions, je peux illustrer ça un petit peu, les éclusiers, ils ne font pas que écluser des bateaux, mais dans les périodes mortes, ils font aussi de l'entretien, des pérées, et ces travaux un peu complémentaires à ce travail d'éclusier, c'est vécu d'une façon extrêmement différenciée suivant ce qui est valorisé par eux dans le travail. Il y a des gens qui aiment beaucoup ça parce que ça les change. Il y en a d'autres avec des formes de socialisation un peu différentes qui ont l'impression, avec ces travaux complémentaires, d'être éloignés ou écartés du cœur de métier.
Merci beaucoup. Donc, si vous avez. Donc, si vous avez des questions. Ah, alors, Paul.
Oui, simplement une petite question d'information sur les formes d'organisation et de représentation de ce ou de ces métiers.
Alors, les formes de représentation syndicales ou les formes de. Alors. Enfin, ça renvoie à ta question, ça renvoie à plein de questions différentes. Je vois déjà qu'en fait, peu de gens connaissent vraiment le travail des Clusiers, alors que tout le monde a quelque chose à s'imaginer par rapport à ça. La deuxième chose, c'est qu'ils sont dans un rapport à la fois, on pourrait dire, de chat et de la souris, sans la souris d'ordinateur auquel il est fait allusion ici, avec les principaux usagers de la voie d'eau, qui sont les bateliers. C'est-à-dire qu'ils sont à la fois dans des rapports de complémentarité, et en même temps, les bateliers étant des indépendants, des petits entrepreneurs, ben, ils considèrent que ces agents de l'État, ils ne foutent rien, ils sont jamais là, ils font pas leur boulot, et quand ils sont là, ils sont en train de pêcher sur le bord de l'écluse. Bref, on peut jamais compter sur eux. Alors après, la façon dont ils sont représentés, y compris à l'intérieur de leur principal employeur, Voies Navigables de France. Hein, je suis allé les voir en disant que est-ce que vous pouvez me prêter concours à cette enquête-là, et j'ai vu leur rapport. D'activité, le rapport d'activité, je pense que ça n'a pas beaucoup changé. Il y a plein de photos, on parle de plein de gens, on parle dans le rapport d'activité de VNF, y compris des bateliers sur deux pages, on ne parle pas des éclusiers. On ne parle pas non plus d'ailleurs des barragistes ou des agents de maintenance, etc. Tout ça, c'est des agents d'exploitation. Hein, à tel point que mes collègues extrêmement savants au sein de mon laboratoire qui travaillent, qui sont des économistes, des géographes, des aménageurs, etc., et qui ont une parole extrêmement légitime et très docte sur ce que c'est le transport par la voie d'eau, quand je leur dis, ben, il y a des agents qui font fonctionner la voie d'eau, on me dit, ah bon? Bon, passons aux choses sérieuses. Hein, ce qui pose une autre question, d'ailleurs, qui est rarement discutée, à mon sens, c'est que comment, en dehors de l'invisibilisation d'un certain nombre de gens particuliers, d'une façon générale, le travail, et surtout le travail concret, est à ce point invisible, et je dirais même pas invisible, il est nié. Hein, est-ce que c'est parce que ça a un rapport avec l'exploitation, comme on dirait avec des termes marxistes? Est-ce que c'est parce que le travail est une donnée, comme diraient les économistes, tellement flexible que finalement ça s'adapte à tout, hein? Mais quand on parle de la voie d'eau, on parle des ouvrages, on parle des tunnels, des ponts canaux, des usines élévatrices, etc., des pompes d'eau, mais on parle jamais des gens qui les font fonctionner. Alors, les représentations. À moins que tu précises un peu ta question. Mais...
Non. Non, ben une autre question dans la discussion. Donc, une autre question sur...
C'est pour compléter, pardon, c'est pour compléter. Ça relève de quel ministère? Agriculture, transport, environnement, Voies Navigables de France?
Alors, pendant longtemps, ça relevait des ponts et chaussées, donc de l'équipement. C'était des services, les services de navigation. Ils ont été externalisés pendant une période, mais sous la forme d'un établissement public administratif, un EPA, qui maintenant regroupe l'ensemble de ces services de navigation. En fait, administrativement, l'histoire est très très compliquée, mais je pense que ça déborderait largement la question ici, enfin la possibilité ici d'expliquer tout ça. Mais ça relève bien évidemment, surtout, on pourrait presque dire congénitalement de la part de ces gens-là, ils se sentent service public, service de l'État, service de navigation.
Bien.
À tel point d'ailleurs que pour beaucoup, porter le sigle VNF, ça n'a pas de sens. Hein. Ils sont service de navigation. Hein. Voies Navigables de France. Mais bon.
Bien, donc nous allons donner la parole à présent. Donc merci Reinhard.